c'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com.
Que Québec se lève. Les finances, l'économie, c'est compliqué? Pas avec Francis Gosselin.
Francis Gosselin connaît ça, les finances, l'économie. Moi, je suis venu bleu marin cette semaine quand j'ai lu la nouvelle comme quoi, au Québec, on a l'apanage des faillites à répétition.
Ouais.
Que tu aies une bad luck dans ta vie puis que tu te plantes une fois, ça arrive, OK? Puis je suis capable de pardonner ça. Mais deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, écoute, il y a des histoires d'horreur. C'est Alexis qui me racontait l'histoire d'un dépanneur qui préférait ne pas payer ses créanciers, puis qui se rachetait lui-même sa faillite à toutes les. Ça fait qu'il a fait quatre ou cinq fois des.
C'est devenu un gag, là, à un moment donné. Tu dis, ah bon, une autre faillite, là. Ça fermait comme une, deux, trois, quatre jours, puis ça reprenait pas longtemps après.
Faut-tu pas avoir. C'est quoi que ma grand-mère répétait tout le temps? Tu sais, de cœur, c'est pas de cœur.
De dignité.
De fierté, ouais, fierté, dignité, ça peut être très bon.
Faut surtout avoir un mépris profond pour les gens qui sont tes fournisseurs puis tes clients. Non?
Incroyable.
En tout cas, donc, toute cette comment est-ce que c'est possible? Ouais,
toute cette histoire-là commence, donc, je vais juste recommencer donc, d'un dossier complet qui a été produit par la presse et le Toronto Star cette semaine. D'ailleurs, Stéphanie Gramont, qu'on entendait à l'émission il y a quelques minutes, a été impliquée dans ce dossier également. Le dossier s'appelle « La société distincte de la faillite
».
Et tu le disais, Myriam, à l'instant, le Québec est le champion toute catégorie des cinquièmes faillites. Donc, c'est des gens qui ont fait pas une, pas deux, pas trois, pas quatre faillites, mais cinq faillites. Sur les 20 cinquièmes faillites qu'il y a eu au Canada, c'est rare, là, cinq faillites. Sur les 20 qu'il y a eu au Canada en 2018, il y en avait 19 qui étaient au Québec et une, je pense, en Alberta. Le dossier donne pas mal d'hypothèses, mais je vous entendais, puis vous avez pas mal, je pense que vous l'avez lu probablement, deux hypothèses. Un, ce qu'on appelle la littératie financière. Les gens, si je le dis simplement, savent pas compter au Québec, puis c'est pas pour casser du sucre sur les Québécois, mais il y a Statistique Canada qui a révélé qu'en fait, il y avait 44% des Québécois francophones qui avaient de la misère à compter, là, puis à faire un budget, alors que dans le Canada anglais, c'est 37%. Bon, c'est pas une grosse différence, mais ça peut expliquer une petite partie. L'autre affaire, Pascal, tu l'évoquais, c'est plus un enjeu culturel, puis ce qu'explique le dossier de la presse, c'est que peut-être qu'au Québec, on est plus dans une logique de on va utiliser la loi de la faillite à notre avantage, là, je dis ça en gros guillemets, alors que dans le Canada anglais, c'est comme le déshonneur, puis tu sais, en guillemets, le protestantisme, tu sais, je veux pas remonter des milliers d'années en arrière. Et donc,
les lois n'ont pas de différence, parce que moi,
les lois sont plus ou moins les mêmes, mais ce qui est vraiment intéressant pour moi, puis en creusant un petit peu dans la question de la faillite, c'est qu'en fait, la faillite, c'est vraiment une solution de dernier recours, hein, puis je veux dire, j'ai parlé avec des syndics de faillite, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont peut-être vu, j'ai fait un petit statut hier, j'ai eu comme une avalanche de recommandations de plein de gens. Puis j'ai précisé dans mon statut Facebook que c'était pas pour moi, parce que je voulais pas qu'on pense que j'étais en faillite.
C'est tout le temps gênant un peu. Là,
exactement. T'sais. Le premier niveau, c'est la consolidation de dette. Fait que, tu sais, ça peut arriver, je sais pas, vous achetez une auto, une maison, une télé, des meubles,
etc. Tu perds ta job.
Tu divorces. Tu as une bad luck. Ouais. Je sais pas, tes parents décèdent, faut que tu payes parce qu'il y avait pas nécessairement d'économie. Peu importe la raison, ça peut arriver une bad luck. Puis le Canada a quand même un système qui, entre guillemets, pardonne. Fait que l'idée, c'est pas de mettre les gens dans la merde puis qu'ils payent toute leur vie pour des dettes qu'ils ont faites à 20 ans, mettons. Fait que la consolidation de dettes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que tu vas à une banque, éventuellement, puis tu dis, gars, voici toutes mes dettes, voici tous mes actifs, là, mes REER, là, mes télé et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, la banque va dire, ben là, tu coupes toutes tes cartes de crédit, tu fermes tes comptes. Moi, je vais te faire un prêt, je sais pas, de 25 000 $ à tel taux, puis tu vas me rembourser tel montant, puis jusqu'à temps que ça soit à zéro. Et généralement, c'est un maximum de 5 ans, la consolidation de dette.
Okay.
La deuxième possibilité, beaucoup de gens qui ont été un petit peu dans la difficulté vont connaître ça, c'est la proposition du consommateur. La proposition du consommateur, c'est vous avez toutes ces dettes-là, donc chez Bell, chez, je sais pas, le Brault et Martineau. Vous allez, mais là, dans ce cas-ci, vous allez voir un syndic de faillite, mais vous déclarez pas faillite, vous dites, je fais une proposition à mes créanciers.
Je vais te payer 50 cents dans la pièce.
Ben, exactement. Fait que vous deviez 5000 $ à Brault et Martineau pour votre divan, puis votre tout ça, puis franchement, il faut vous montrer là, vos revenus qui sont pas capables de couvrir et tout ça. Puis le syndic va se tourner, puis le syndic va agir un peu comme votre intermédiaire et va dire, ben écoutez, s'il fait faillite, vous allez avoir rien ou presque rien. avec une proposition du consommateur, vous allez avoir 50 cents en pièces ou 40 cents, ou en fait, peu importe, il fait la proposition et généralement, les créanciers acceptent. Et donc, ça vous permet de diminuer, dans le fond, la dette. Mais surtout, avec le syndic en présence, il faut que vous engagez à les rembourser. Ça,
mais donc, celui qui arrive à la faillite, ouais. C'est qu'il pouvait vraiment rien offrir à ses créanciers.
Ben, c'est ça. Puis donc, encore une fois, j'ai consulté les syndics, comme je vous dis hier, puis la réponse d'un des syndics, je ne veux pas le nommer parce que le but, c'était pas de faire du favoritisme, mais ça permet à une personne honnête, mais malchanceuse, de se réhabiliter financièrement. Puis ça, c'est la réponse formelle.
Non, mais c'est bien dit.
Puis c'est ça. C'est ça. Pour plusieurs personnes, qui, sans ça, comme je disais tantôt, ils seraient condamnés à être endettés toute leur vie. Puis, tu sais, au Canada, franchement, on a, bon, c'est pas le système parfait, mais on a cette chance à quelque part que, tu sais, si tu as une bad luck à un moment donné, ça va pas gâcher le reste de ta vie. C'est
mais
pour ça
qu'il devrait pas y avoir une limite. Quand on a fait deux, là, après ça, game over, à troisième prix, c'était retiré, je suis désolé.
Ben, c'est pour ça qu'on a des syndics, tu sais. Puis le rôle des syndics, à quelque part, là, je veux pas rentrer dans la théorie, mais c'est leur rôle, c'est de superviser qu'il y a un processus qui est mis en place, qui est juste, qui est équitable, puis qu'on évite. Puis donc, encore une fois, ce que le dossier montre, puis qu'il y ait des faillites, ça, il va toujours en avoir, tu sais. Puis à quelque part, je trouve que c'est une assez bonne loi. Qu'il y ait des cinquièmes faillites, c'est un petit peu plus compliqué. Puis ce que dit le dossier, donc, pour revenir à ça, c'est que la raison pour laquelle il y a des quatrièmes puis des cinquièmes faillites, Myriam, c'est que les créanciers, les gens à qui on doit de l'argent, qui sont souvent des grandes entreprises, des Bell, des Brault et Martin, puis là, je cible ceux-là, des TELUS, n'importe qui, des grands distributeurs. Le cas du dépanneur est assez singulier. En général, les faillites, c'est plus des histoires de j'ai une auto, tu sais, vraiment des grandes entreprises versus un individu. Le créancier, honnêtement, payer un avocat 250-300 $ de l'heure pour lire le dossier, pour se présenter en cours pendant 2 heures, pour aller chercher quoi, 1 000 $, 2 000 $. Les créanciers ne font pas l'effort. Puis l'enjeu que soulève le dossier, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les créanciers laissent couler parce qu'ils disent honnêtement, je vais prendre la perte, puis je vais me concentrer sur le 99,8% des clients qui, eux, payent tous les mois.
Donc, les créanciers sont moins réceptifs aux accords concordataires?
Ils sont, ce que révèle le dossier, peu impliqués dans tout ça, en fait. Ils acceptent les propositions du consommateur, ils acceptent les faits. Parce que le coût de réagir, le coût d'interagir avec le syndic puis de faire une contre-proposition serait tellement important pour eux pour un seul cas. Puis là, ici, on parle vraiment de faillite personnelle, Les faillites d'entreprise, c'est une toute autre affaire. Puis un autre syndic à qui j'ai parlé m'a fait la remarque quand même, ce qui est vraiment intéressant, puis toujours, tu sais, les Québécois, mais il dit au Québec, le problème, puis même pour les syndics, les gens font des petites faillites. Puis c'est pas intéressant pour les syndics.
C'est quoi une petite faillite?
Faillite, c'est genre 15 000 $. Tu vas faire faillite, entacher ton dossier de crédit pendant 7 ans pour pas payer 15, 20, 25 000. Il dit en Alberta, pour le syndic, c'est une business être syndic, là, t'as des frais et tout ça. Ben, il dit en Alberta, le monde, ils font des vraies faillites. Ils font des faillites de 300, 400 000. Là, tu peux comprendre que même quelqu'un qui gagne bien sa vie, repayer 400 000 $, c'est plus difficile, tu sais. Mais il dit au Québec, c'est bizarre. Et souvent, dans les cas, là, de gens qui font de multiples faillites, c'est des séries de petites faillites, 40 000, 30 000, etc. Évidemment, en un jour, c'est un gros montant, mais si tu étales ça sur 5, sur 10 ans, c'est pas des si gros montants que ça. Évidemment.
Est-ce qu'il est possible que si le Québec est champion des faillites, c'est pas aussi parce qu'on est la province la plus taxée? Tu payes énormément d'impôts, tu payes énormément de taxes, il te reste moins d'argent lousse pour payer tes dettes.
Ben, il y a deux choses là-dedans. Un, le Québec, puis ça, c'est de moins en moins vrai, mais par rapport aux autres provinces canadiennes, les grandes provinces, on va dire l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, on est une des provinces les moins riches là en revenus par habitant. Puis on est en train de rattraper plein emploi, belle croissance économique, mais historiquement, on était un peu moins riches. Fait que c'est normal. Puis vous le savez, là, honnêtement, les gens qui font faillite, c'est pas les millionnaires. Là. Il y en a qui en font, mais si tu prends le nombre d'individus qui font faillite, c'est plus souvent les ménages les plus pauvres dans la société qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et donc, il y a un enjeu donc qui est celui de la richesse. L'autre enjeu, je parlais des créanciers. Certains des créanciers qu'on parle, c'est le fisc. C'est Revenu Québec, puis c'est l'Agence du revenu du Canada. Puis ce qui est particulier au Québec, c'est qu'on est la seule province qui divise l'impôt en deux.
Exact. Fait
que, mettons que t'es en Alberta, tu dois 20 000 à l'impôt. Ben là, pour 20 000, l'Agence du revenu du Canada qui administre l'impôt en Alberta va faire des démarches. 20 000, c'est un gros montant. Mais au Québec, c'est divisé par deux. C'est de 10 000 à une place, 10 000 à l'autre. Ben, le montant justifie moins d'efforts. T'sais. Puis c'est donc le fait qu'on ait deux rapports d'impôts fait en sorte que le créancier, entre guillemets, qui est l'État, a moins d'intérêt à poursuivre puis à essayer de trouver un arrangement qui l'avantage.
Mais à la lumière de ce que tu dis, Francis, j'ai quasiment l'impression que quand t'es bon payeur, tu manques certaines occasions d'aller te faire baisser.
Ouais, mais après, comme je te dis, là, je sais pas dans quelle mesure vous avez essayé d'acheter une auto récemment ou de, tu sais, d'acheter des meubles à crédit ou n'importe quoi. Puis même pour, à la limite, avoir un nouveau téléphone cellulaire, là, tu veux t'acheter un nouvel iPhone pour 8 générations plus tard, là, si t'as pas un bon crédit, on va te refuser. Tu sais, hey, tu pourras pas acheter l'auto.
Ouais. Je
te parle pas
d'auto
de luxe. Ben, c'est ça.
Tu ne pourras pas l'avoir, même si tu la veux,
si t'as fait
faillite,
t'as plus de crédit pendant 5 à 7 ans généralement. Puis ça, ouais, tu sais, tu as acheté une maison, fonder une famille, n'importe quoi, c'est pas, tu sais, oui, OK, tu peux te sauver un 20 000, mais après ça, ça va affecter ta capacité.
Une amie qui a fait faillite et qui, pour rétablir son crédit, a été obligée d'acheter une voiture, mais un taux d'intérêt délirant.
Ça aussi, ouais, c'est l'affaire.
Pour prouver qu'elle est capable de payer.
Puis, Francis, il y a aussi la culture de la faillite qui est différente. Tu sais, parce que quand tu parles de faillite, un des premiers exemples que j'ai puis qui me vient en tête, c'est Donald Trump, dont ses entreprises ont fait faillite, mais que lui a pas fait faillite. Et là, lui, il avait dit, ah oui, mais tu sais, ceux qui le défendaient, en business, c'est normal à un certain point de faire faillite puis de te relever. Mais visiblement, ça n'entache pas nécessairement la réputation d'homme d'affaires de Trump, même s'il a fait faillite.
Effectivement. Mais là, ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, ici, on parle vraiment de faillite personnelle. Les faillites d'entreprise, c'est comme un autre jeu complètement, parce qu'évidemment, mettons, puis on veut encourager au Québec l'entrepreneuriat, c'est ce qui stimule la croissance économique, etc. C'est sûr que si on punit les entrepreneurs dont l'entreprise fait faillite, là, tu vas décourager les gens de se lancer en affaires. Donc, on protège souvent le, tu sais, Alexis, l'humain, de... Alexis Inc., ouais, le business, le dépanneur.
Mais quand tu parles de faillite personnelle, on a un témoignage, puis je trouve ça intéressant de le dire ce matin, quand on dit qu'il y en a qui vont pas arrêter de faire faillite, puis que ça va pas faire en sorte qu'il va se poser des questions personnellement, ben on vient d'avoir un témoignage. Moi, j'ai fait une proposition de consommateur il y a longtemps maintenant. Tout ce que j'achète et investis dans ma compagnie ou pour moi, j'attends d'avoir l'argent, sinon j'achète pas. Et plus jamais je vais avoir des troubles financiers. C'est vraiment quelqu'un qui est...
Ouais, ben pis c'est ça, puis c'est toute la notion de comment on stimule les gens à apprendre de ça. Puis je voudrais raconter, j'ai peut-être deux autres éléments. J'ai un ami à moi qui est entrepreneur restaurateur à Montréal, okay, puis il avait un associé qui n'était pas quelqu'un particulièrement honnête. Bref, le restaurant a été en situation, entre guillemets, qu'on appelle de faillite technique. Ils avaient de la misère à payer les intérêts sur leurs dettes. Fait que c'est vraiment, ça allait pas très bien. Et lui, il avait aussi une petite business à côté. Il importait du vin et tout ça, puis qu'il aimait bien. Puis il voulait rester dans la restauration. Puis dans la restauration, si vous connaissez des gens dans le milieu, il faut que tu t'endettes. Il faut que tu achètes des frigos, des fours, des chaises, des tables, un stock de base. À moins d'être très, très riche là, à la naissance, la plupart des restaurateurs qui se lancent en affaires vont faire un prêt. Puis donc là, lui, il était comme au terme d'une aventure, plus capable de payer. Puis ce qu'il a fait, c'est une proposition du consommateur. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je fais faillite, je pourrai plus jamais avoir de restaurant. Tu sais, à 35 ans, mettons, tu fais faillite, ben, je pourrai pas avoir de resto avant que j'aie 45. Je vais faire les 10 prochaines années de ma vie, tu sais, en tant que personne qui est un restaurateur.
Alors, comment on explique 5 faillites d'affilée? Comment on explique qu'il y en ait 19 au Québec qui ont réussi à faire 5 faillites d'affilée?
C'est un petit peu...
c'est une faillite aux 5 ans, ça, là, dans une vie?
C'est un petit peu toute la question de qu'est-ce qu'on apprend. Puis donc, je finis peut-être là-dessus. Il est tôt le matin, mais quand même, j'ai fait un petit peu de recherche historique. Le concept de faillite a une longue histoire. Dans la Rome antique, les créanciers pouvaient découper le corps de la personne faillie et se le séparer en petits morceaux. Bon, c'était d'autres temps, d'autres mœurs, mais c'est intéressant parce que...
La version antique de hashtag BDC.
Hey, t'es en train de voler, mais on va se coucher moins niaiseux aussi, là.
mais donc, il y avait un châtiment corporel, OK? Puis là, la Rome là, a divisé le corps en morceaux, c'est extrême, mais dans la France, jusqu'au 18e siècle, il y avait des mutilations publiques. Là, on châtiait sur la grande place du village les gens qui n'arrivaient pas à payer leurs dettes. On leur donnait des coups de bâton, etc. Puis tout à l'heure, on parlait de la DPJ avec les coups de règle. On est passé du bâton à la règle.
Oh, on s'améliore quand même.
Mais ce que je veux dire, c'est que je devine, puis je ne suis pas un promoteur de la violence, mais qu'à cette époque-là, tu ne faisais pas une deuxième faillite. donc, il y a peut-être quelque part trouver un juste équilibre entre ce qui est aujourd'hui la norme un peu de la faillite empathique. Là, et comme le disait le syndic, je veux avoir des gens honnêtes et leur donner une deuxième chance. Et encore une fois, cette idée que là, on fait des faillites à répétition. Dans le dossier, il y a un monsieur, en 16 ans, il a fait 5 faillites. C'est comme à un moment donné, il faut arrêter de lui prêter de l'argent à ce monsieur-là.
Aussitôt qu'il est libéré d'une faillite, il se remet dans l'ordre.
C'est ça. Puis je reviens donc peut-être pour finir, ça reste que malheureusement, ça affecte principalement les gens à faible revenu, ces histoires de faillites-là. Le crédit est facile, les institutions financières ont peu d'intérêt à arrêter de prêter parce qu'évidemment, Pascal, tu le disais, souvent les taux sont ce qu'on appelle usuriers, tu sais, des taux à, sur des cartes de crédit à 21%. Puis je pense que maintenant, c'est réglementé parce qu'à une époque, il y avait des taux sur des cartes de crédit à 30%, etc. Ouais. Puis tu sais, des gens qui gardent des soldes sur des cartes de crédit, là, en passant, je vais faire mon petit conseil financier personnel. C'est pas une bonne affaire. Si vous êtes pas capable de payer votre carte, là, allez à la banque, faites un prêt personnel. Le taux va être comme, tu sais, 4%, 6% au lieu de 19%. Puis au lieu de payer d'intérêt dans le vide, mettez les ciseaux dans la carte de crédit puis payez, tu sais, sur un an le solde que vous avez. Deux petites recommandations de lecture, peut-être, pour finir. Il est avantageux d'avoir où aller. C'est un livre de Emmanuel Carrère qui explore tout le côté justement crédit à la consommation puis comment on garde les gens dans cette espèce de cycle de la dette. Hein. Ils veulent s'acheter un frigo, là, ils payent le frigo à 18% d'intérêt, puis le frigo il brise, ils s'achètent un four. Puis dans le fond, on appauvrit les pauvres. Oui. Avec cet intérêt-là, alors que s'il arrivait puis qu'il l'achetait cash, là, comme l'auditeur qui l'a dit, ben, il paierait aucun intérêt, puis il y aurait à la fin de l'année puis à la fin de leur vie plus d'argent disponible pour acheter des biens et des services. Puis un autre livre que je peux vous recommander, Histoire de la banqueroute et de la faillite, si vous voulez avoir dans le détail ce qui se passait dans la Rome antique. C'était un très bon livre. C'est disponible gratuitement sur Internet, ce livre-là. C'est un livre en PDF. Fait que Histoire de la banqueroute et de la faillite contemporaine.
Qu'en Suisse, un des secrets des banquiers suisses, c'est que la loi leur interdisait de faire faillite. Et si leur entreprise faisait faillite, ils étaient responsables, de même que, je pense, les cinq générations suivantes.
Wow. Ouais, ça, c'est pour ceux qui ont des enfants, c'est moins le fun aussi. C'est un passé bien.
Un beau cadeau suite au départ de quelqu'un.
Une honte sur toi et toute ta famille pour des générations et des générations.
Merci, Francis Gosselin.